Aujourd'hui, pour la chronique environnement, eh bien, on va parler avec Caroline Collin. Vous l'avez déjà rencontrée. Ça va bien, Caroline?
Oui, merci.
Et elle est responsable des communications du COBALI. Alors, aujourd'hui, pour la chronique environnement, tu vas nous parler du cycle de l'eau. On parle plus particulièrement des eaux invisibles. Alors, bon, l'eau invisible, déjà là, tu m'as déjà perdue, mais tu nous invites à remonter à l'époque des dinosaures aujourd'hui.
Eh oui, parce que, ben, quand on y pense, hein, l'eau qu'on boit aujourd'hui, l'eau qu'on regarde descendre dans nos rivières, bon, là, ça commence à geler un peu, mais
ouais.
L'eau dans laquelle on se baigne l'été, ben, tout ça, c'est la même eau, au fond, qui existait à l'époque des dinosaures. Il y a plusieurs dizaines de millions d'années.
OK.
Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'eau est perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle fait que se déplacer, circuler sur Terre en changeant régulièrement d'état. C'est le cycle de l'eau, finalement.
OK.
Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Ben oui, mais là, tu me parles de cycle de l'eau. Comment ça fonctionne, le cycle?
Bien évidemment, comme dans tout cycle, hein, il n'y a pas vraiment de fin ou de début, hein, c'est une roue qui tourne, mais
oui.
Bon, partons des océans, disons. Bien, le soleil va faire en sorte qu'une partie de l'eau liquide va s'évaporer et monter de cette façon-là dans l'atmosphère. En fait, 90 % hein, de tout l'eau qui est évaporée provient des océans, donc c'est vraiment énorme.
OK, oui.
Donc ensuite, cette vapeur d'eau-là va se concentrer pour former des nuages qui vont plus tard, bien sûr, relâcher l'eau sous forme liquide à nouveau, donc les gouttes de pluie,
oui.
Ou plus ou moins solides, comme c'est le cas ces temps-ci, les flocons de neige.
Oui, c'est vrai.
Et donc, l'eau va redescendre de cette façon-là vers le sol. Une fois arrivée au sol, les gouttes de pluie peuvent emprunter trois chemins différents pour recommencer, si on veut, là, le cycle.
OK.
Premièrement, elles peuvent ruisseler pour se rendre jusqu'au lac, au ruisseau, aux rivières, puis de cette façon-là, continuer leur descente jusqu'à la mer. Deuxièmement, elles peuvent aussi tout de suite remonter en s'évaporant à nouveau ou bien être absorbées par les plantes et les arbres avant d'être rejetées par eux par la transpiration parce que oui, les plantes et les arbres transpirent aussi. Troisièmement, elles peuvent enfin s'infiltrer dans le sol. Donc, en pénétrant d'abord la portion supérieure du sol où on trouve les racines des végétaux, puis poursuivre leur descente dans le sous-sol. Et là, cette eau-là va demeurer captive un certain temps et former ce qu'on appelle la nappe phréatique ou l'eau souterraine. Ben, quand on parle d'eau invisible, c'est ça. C'est cette eau-là qui est cachée sous nos pieds, si bien qu'on l'oublie souvent. Pourtant, elle est importante autant pour la nature que pour nous, les humains.
OK. On sait qu'elle est importante, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi, par exemple.
Oui. Ben, en fait, c'est que l'eau souterraine finit par ressurgir. C'est-à-dire qu'elle va ressortir des profondeurs du sol après y avoir été retenue prisonnière, là, bon, de quelques jours à des centaines de milliers d'années.
Oui.
L'eau souterraine vient alors alimenter les eaux de surface, donc les milieux humides, les lacs, les rivières, empêchant du même coup le niveau d'eau de baisser drastiquement lorsqu'il ne pleut pas pendant de longues périodes ou qu'il fait très chaud l'été. Bien, ça, c'est important parce que ça permet de maintenir les habitats des poissons et des autres espèces là, qui vivent dans nos lacs et nos rivières.
Et si jamais on parle d'espèces humaines, par exemple, c'est quoi l'importance des eaux souterraines?
Bien, principalement, hein, c'est pour l'eau potable. Souvent, on va penser plutôt aux eaux de surface, donc les lacs, les rivières, parce qu'elles sont visibles.
Oui.
Mais pourtant, c'est pas là qu'on retrouve les plus grandes quantités d'eau bonne à boire. En fait, pour te donner une idée de grandeur, sur Terre, il y a 2,5 % d'eau douce. Hein, c'est peu. Les eaux souterraines, bien, c'est 30 % de cette eau douce.
Quand même.
Les lacs, les rivières, même pas 0,5%.
Ah,
donc,
ouais.
C'est dire qu'on retrouve 75% plus d'eau potable dans l'eau souterraine que dans l'eau de surface. Ceci dit, ben, c'est sûr que pour y avoir accès à cette eau souterraine potable, ben, encore faut-il aller la chercher. Donc, c'est là où il faut forer un puits. Puis, soit dit en passant, malgré ce qu'on pourrait croire, l'eau qu'on va capter avec un puits de surface, autant qu'avec un puits artésien, bien, c'est de l'eau souterraine.
OK.
Par contre, c'est sûr que le puits artésien, lui, va la chercher plus profondément, donc sous une couche de sol imperméable ou du roc solide. Puis, dans les Laurentides, hein, c'est 42 % de la population qui s'alimente en eau à partir des eaux souterraines. Puis, pour la majorité des gens, là, les deux tiers environ, c'est justement à partir d'un puits de surface. surface là, ou artésiens,
oui,
qu'ils ont sur leur terrain. Donc, ça représente quand même beaucoup de monde.
Ben oui, vraiment. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui se reconnaissent. Même si ça arrive un peu plus en région que les gens vont s'alimenter à partir des eaux souterraines.
Oui.
Et là, il y a un projet actuellement sur notre territoire pour mieux connaître les eaux souterraines.
Exactement. En fait, on appelle ça le PACES. Là, c'est l'acronyme pour Projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines.
OK.
C'est un projet de recherche qui est financé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et qui est mené par l'UQAM, donc l'Université du Québec, oui, à Montréal, en collaboration avec les organismes de bassin versant, dont le Cobalie, bien sûr. Il se déroule à la grandeur des Laurentides, ce projet-là. Il a débuté l'an dernier, puis se poursuit jusqu'en 2021. Dans le fond, le projet, ce qu'il vise à connaître, c'est la quantité, la qualité, où se situent les concentrations d'eau souterraine et les zones de recharge. Ça, dans le fond, simplement, c'est les lieux où l'eau de pluie va pénétrer plus facilement dans le sol jusqu'à atteindre une nappe phréatique.
Okay.
Et de cette façon-là, va venir renouveler l'eau souterraine plus rapidement qu'ailleurs. Donc, c'est le cas, par exemple, là, des milieux humides qui, mm-hmm, agissent comme des éponges. Donc, l'intérêt d'avoir ces informations-là, c'est ensuite, évidemment, de protéger nos eaux souterraines, d'éviter de trop en pomper par rapport à la capacité de recharge et éviter aussi la contamination des zones de recharge,
oui,
particulièrement.
Évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour protéger les eaux souterraines qui sont super importantes, comme tu viens, mm-hmm, de le mentionner?
Bien, il faut éviter, bien sûr, de rejeter dans la nature là, toute forme de contaminants. Donc, que ce soit des huiles usées, de l'essence, de la peinture, oui, bref, tout ce qu'on n'aimerait pas voir dans notre,
ben,
café,
oui,
le matin. Hein.
En plus, c'est tellement de la logique.
Oui, c'est ça. Donc, parce que même si elle est moins facile à contaminer que l'eau de surface, c'est vrai, ça demeure tout de même un risque. Donc ensuite, si on est propriétaire d'un puits à la maison, ben c'est important d'en faire analyser l'eau, idéalement deux fois par année, au printemps, à l'automne, pour s'assurer qu'elle est de bonne qualité pour la boire. Parce que malheureusement, on ne peut pas se fier à l'apparence, à l'odeur ou au goût pour juger de la qualité de l'eau.
Ben oui, voilà, vous avez vraiment raison. Et pour faire cette analyse-là, ben je recommande aux gens de simplement aller dans un...
C'est un laboratoire accrédité, puis sur le site du gouvernement du Québec, là, si on tape puits, on va tomber sur une liste là, de ces laboratoires.
Parfait. Puis en même temps, ben, en parlant de site Internet, si jamais vous avez des questions, si les auditeurs ont des questions, ils peuvent consulter le site web du Cobalie. C'est au www.cobalie.org. Et
exact.
Vous avez une page Facebook aussi.
Et oui, qu'on alimente régulièrement. Donc, on
invite, ouais,
les gens à venir aimer notre page.
Génial. Ben, merci beaucoup, Caroline Collin. Elle est responsable des communications du Cobalie. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir, Caroline.
Ben, ça me fait plaisir.